Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. C'est vraiment réjouissant de voir l'accueil qui est réservé à cet ouvrage très important. Bonsoir Charlotte. Donc nous allons aujourd'hui parler de votre livre consacré à Harlem et à l'histoire de sa gentrification qui vient de paraître. Donc Charlotte Recoquillon, vous êtes géographe, docteur en géopolitique et spécialiste des États-Unis. Vos recherches portent notamment sur les questions des violences policières, sur le racisme et sur le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Et vous êtes également enseignante à Sciences Po. Et donc, vous avez réalisé cette recherche, qui est votre recherche doctorale également, après 20 ans de recherche sur le territoire de Harlem. Alors, pour commencer, puisque le titre comporte un mot qui est un anglicisme, qui est le terme de gentrification, je voudrais savoir si, pour les personnes qui sont ici, vous pourriez définir ce terme de gentrification et nous dire s'il a des résonances aussi dans le contexte français.
Bien sûr, merci beaucoup à tous, bonsoir. Donc effectivement, la gentrification, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par Ruth Glass, qui était une sociologue anglaise, et elle a utilisé ce terme en 1964 pour décrire la transformation des quartiers ouvriers du centre de Londres, où des logements ouvriers avaient été rachetés et rénovés par la gentry, qui était cette classe bourgeoise, petite noblesse. Donc le terme gentrification, il a vraiment dans sa racine, dans son étymologie, une dimension sociale et une dimension de lutte de classe. Il est politique, ce terme, et effectivement, il a une résonance aussi en France. On substitue souvent à l'appellation gentrification d'autres termes, rénovation, régénération, renouvellement urbain, etc., qui dépolitisent en fait et justement qui effacent cette dimension de classe et de lutte de classe que contient ce terme. Et je ne l'ai même pas dit, du coup, je n'ai fait que d'étymologie, mais du coup, ça désigne la transformation du quartier de manière donc physique, sociale, économique, et on a le remplacement d'une population, de la population ancienne par une population nouvelle, en général plus fortunée.
Alors, au début de votre ouvrage, vous évoquez plusieurs chercheurs qui romantisent ce processus de gentrification, qui le présentent comme un atout en termes de mixité, et c'est une lecture que vous contestez tout au long de votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes grilles de lecture qui existent quant à ce processus de gentrification ?
Effectivement, la gentrification aux États-Unis, elle est devenue une sorte de réponse systématique aux problèmes urbains et aux problèmes que rencontraient les centres-villes, notamment dans les années 50, 60, 70. Il y a eu une paupérisation et une dégradation des centres-villes, un désinvestissement qui était le résultat de choix politiques, des politiques publiques qui favorisaient les banlieues. Et on a développé des autoroutes, des maisons individuelles, voilà, on a aidé l'accès à la propriété pour développer cet étalement urbain dans les banlieues américaines. Et parallèlement, se sont dégradés les centres-villes où sont restées concentrées des populations pauvres et des problématiques sociales. Avec le désinvestissement de l'État fédéral qui a cessé de donner des subventions aux villes, aux municipalités, et donc les échelles locales se sont retrouvées à avoir à la fois une fuite et un exode fiscal et en même temps la gestion de problématiques sociales et de services de coûts économiques et de services sociaux. Donc la réponse apportée par les villes, ça a été de dire on va gentrifier, on va rénover, on va attirer des ménages plus riches aussi pour répondre à l'idéal affiché de mixité sociale, de mixité raciale dans le contexte de la ségrégation. Mais c'est évidemment une mixité qui est fausse, puisque en fait les populations que l'on remplace et que l'on déplace sont toujours les populations les plus vulnérables et les plus marginalisées et les plus dominées, et donc on vient gentrifier leur quartier alors que si on voulait vraiment lutter contre la ségrégation, le Upper East Side ou le Upper West Side sont beaucoup plus ségrégés et homogènes, quels que soient les critères sociaux qu'on prend, qu'un quartier comme Harlem. Donc effectivement, cette édulcoration un petit peu de la mixité sans voir les problématiques et d'inégalité, d'injustice, je conteste cette lecture.
Oui, et dans ce que vous dites, on comprend que la gentrification, c'est la mixité à sens unique. C'est-à-dire qu'on ne va pas effectivement déplacer des populations plus pauvres vers des zones plus cossues. Donc c'est vraiment effectivement ce processus à sens unique qui montre bien qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment d'une volonté de mixité, mais véritablement de la transformation de quartiers, des quartiers les plus défavorisés. Alors, vous êtes française. Ce qui, j'imagine, interroge pas mal de personnes, c'est de comprendre d'où est né votre intérêt pour Harlem. Comment vous avez rencontré cette zone de New York et pourquoi vous avez décidé de vous y arrêter pour l'étudier?
Alors, c'était un peu un accident à la base, puisque vous l'avez rappelé, c'était il y a 20 ans que j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Et il y a 20 ans, j'étais en licence de géographie et je postulais pour une maîtrise de géopolitique. Et donc, j'étais à la recherche d'un sujet pour mon mémoire. Et ce qui devait n'être qu'un sujet de mémoire pour une année s'est transformé en 20 ans de recherche. Mais donc, à l'époque étudiante, je cherchais à travailler sur les questions d'inégalité et de ségrégation. C'était ce qui m'intéressait. J'avais quand même cette déjà sensibilité aux questions de domination, d'inégalité, d'injustice, mais je savais pas très bien comment l'approcher, comment le travailler. Et c'est ma directrice de thèse, Béatrice Giblin, qui est devenue ma directrice de thèse, qui a parlé de Harlem à un de mes camarades qui n'avaient pas du tout envie de travailler sur ce sujet. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Mais oui, évidemment, ça fait sens. Je vais aller aux États-Unis, au cœur de l'Empire. » J'avais des représentations très caricaturales. Hein. Je n'étais encore jamais allée là-bas et je n'avais pas du tout prévu d'y aller. D'ailleurs, j'ai pris un billet d'avion non échangeable, non remboursable pour être sûre de ne pas me dégonfler en approchant. Et donc je suis allée travailler à Harlem sur les inégalités. Je voulais au début faire quelque chose d'assez classique sur la ségrégation. Et puis en fait, en arrivant là-bas, le mot que tout le monde avait à la bouche, c'était la gentrification. Le problème que rencontraient les habitants, c'était la gentrification. Et j'ai immédiatement switché et travaillé là-dessus. Et puis, pour peut-être prolonger le début de votre question sur en tant que Française, j'étais une étudiante française, blanche, en 2004. Et à l'époque, la gentrification avait déjà bien commencé, etc., mais n'était pas encore aussi avancée. Et donc, il y avait encore une sorte de fierté à montrer le quartier, surtout à quelqu'un d'étranger, qui était de passage. Je n'allais pas rester à Harlem. Donc, on pouvait, sans risque, je n'étais pas une menace, je n'étais pas une gentrifieuse moi-même. Enfin, encore que si, en fait, puisque le fait que les étudiants, les populations étudiantes, les gens qui, comme ça, traversent et racontent et participent à la narration, à la mise en récit du quartier, participent, en fait, à la gentrification du quartier. Mais en tout cas, je n'étais pas vue comme une menace par les gens. Donc, ils m'ont plutôt accueillie à l'époque de manière plutôt bienveillante pour me montrer, me raconter et me dire ce qu'ils étaient en train de vivre. Ça a un peu évolué au fil du temps, puisque la gentrification s'est accélérée, s'est durcie, il y a eu des crispations plus fortes, donc ça a un petit peu évolué.
Donc vous parlez d'Harlem, donc quand on est dans le contexte français, Harlem, ça évoque beaucoup de choses, c'est un univers qui est extrêmement présent dans les films. On pense aussi au fait que ça a été le centre névralgique de la vie culturelle noire aux États-Unis, mais finalement on ne sait pas grand chose de la manière dont ce territoire s'est constitué. Vous en parlez de manière très très fournie dans votre ouvrage. Vous parlez de la manière dont Harlem s'est composé, recomposé, dont la réputation a aussi évolué, notamment au fil du XXe siècle. Est-ce que rapidement vous pourriez nous expliquer en fait ce qui a constitué Harlem et comment le Harlem dont on entendait beaucoup parler, enfin celui d'il y a un siècle, est devenu autre chose aujourd'hui?
Alors ça, c'est un peu la rançon de la gloire des endroits très connus, c'est qu'en fait ils sont souvent très mal connus et même aux États-Unis, en fait, et même les New-Yorkais et même les voisins de Harlem connaissent très mal ce quartier. Pour la petite anecdote, en 2005, j'habitais à Washington Heights, qui est le quartier dominicain voisin frontalier de Harlem. Et quand je demandais autour de moi, et notamment aux gardiens d'immeubles, où est-ce que je pouvais aller, qu'est-ce qu'ils me conseillaient, etc., ils m'avaient dit « ne va surtout pas après 17h à Harlem, c'est trop dangereux, etc. » Bon, réunion publique 18h, j'étais obligée d'y aller le premier jour. Et j'ai bien vu que lui-même avait des représentations complètement fausses du quartier. Et donc, pour revenir un peu sur ces représentations, justement, Harlem est connu pour être un quartier noir, une capitale culturelle, politique, du monde africain-américain. Mais à la base, ce quartier, il avait été construit au tout début du 20e siècle, à la fin du 19e et au début du 20e, comme une extension de Manhattan. Enfin, il est au cœur, il est au nord de Central Park dans Manhattan. Et en fait, le front d'urbanisation, en fait, finalement, elle a progressé vers le nord. Et puis, une bulle spéculative a fait qu'il y a eu soudainement trop de logements produits pour trop peu de demandes. En même temps qu'il y avait la grande migration des populations noires du sud des États-Unis qui cherchaient à venir se loger dans les villes industrielles du nord. Donc on a eu cette bascule tout début, à partir de 1904 jusqu'à... Enfin, et en 10 ans, 15 ans, le quartier est devenu complètement noir, mais à la base, c'était un quartier bourgeois, blanc, avec... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il conserve un patrimoine architectural extrêmement beau et riche, et qu'il y a des très belles brownstones, des belles demeures. C'est parce que ça avait été construite pour des familles bourgeoises blanches. Donc, ce petit accident de parcours fait que le quartier devient noir très, très rapidement, parce que la ségrégation fait que, de toute façon, ils ne peuvent pas se loger ailleurs à New York. Donc, ils investissent et occupent ce quartier. Et dans les années 20, la Harlem Renaissance, c'est ce mouvement, cette effervescence culturelle, artistique, politique, qui va contribuer à la gloire et à faire de ce quartier vraiment un quartier iconique et symbolique. Et puis, il va rester cette icône tout en se paupérisant et en se ghettoisant, puisque le propre de la ségrégation aux États-Unis, c'est que pendant toute une phase, la ségrégation raciale faisait qu'au sein de Harlem coexistaient la bourgeoisie, la noblesse noire, les professions libérales, intellectuelles, des avocats, des médecins, aussi bien que la classe ouvrière. L'effet de la déségrégation, notamment dans les années 60, après le mouvement des droits civiques et après les lois de déségrégation, ceux qui pouvaient partir et ceux qui s'étaient un peu embourgeoisés ou qui avaient les moyens, les classes moyennes noires, sont partis du quartier et ont laissé finalement seulement les plus pauvres dans le quartier, et ça a été la phase vraiment de ghettoisation et d'élabrement, en plus parce qu'il y a eu un désinvestissement, on y reviendra peut-être, mais il y a eu un désinvestissement du quartier, à la fois des investisseurs dans le logement, des propriétaires, etc. Et donc, il est resté associé à cette image de crime, de pauvreté, de dangerosité, et les New-Yorkais pendant longtemps disaient il faut pas passer au-delà de la 96e rue ou de la 110e rue, c'est trop dangereux, on n'y va pas, et plein de New-Yorkais n'étaient jamais allés à Harlem. D'ailleurs, les Français sont connus pour être des explorateurs et avoir toujours franchi les frontières, même quand ils n'y étaient pas invités. Et à Harlem, ça ne fait pas exception. Les Français ont toujours été dans ce quartier et fait du tourisme dans ce quartier, même quand ça n'était pas aussi populaire.
Alors, vous avez évoqué les différentes politiques qui ont conduit à la transformation de Harlem. Vous évoquez notamment les politiques néolibérales de rénovation urbaine. Alors, il y a des spécificités qui sont liées au contexte américain, au contexte politique, au contexte économique. Est-ce que vous pourriez nous présenter justement ces spécificités pour qu'on comprenne ce qui a conduit à ces changements ?
Alors, il y a évidemment le contexte de néolibéralisation globale des politiques publiques. On a vu qu'il y avait de plus en plus de partenariats publics-privés, de privatisation des services publics, etc. Donc, ce contexte-là, plus le contexte politique que j'ai rapidement mentionné, de désinvestissement de l'État fédéral qui a coupé les fonds de grands programmes sociaux et notamment de logements sociaux. Donc il y a eu un désinvestissement du niveau fédéral qui a laissé l'échelon ville, l'échelon municipalité en charge de la politique de la ville. Dans les années 70, un maire, Edward Koch, a pris en charge, lui, de dire bon bah on va réinvestir, enfin on va réattirer des investissements et des populations jugées plus désirables, notamment en attirant des entreprises, des emplois. Il y a eu toute une campagne de marketing. C'est là qu'on a vu émerger les campagnes de marketing urbain, I Love New York, le symbole de la Big Apple, etc. Ça a été vraiment des campagnes marketing pensées municipales pour justement devenir plus compétitif aussi à l'échelle internationale, puisque on a en parallèle la globalisation, hein, la mondialisation et une compétition accrue entre les villes mondiales. Donc il faut se concurrencer et se placer sur ce marché international. Donc on attire des congrès, des sièges d'entreprise, etc. On fait des grandes campagnes et on attire des touristes aussi. Le tourisme est un gros vecteur. Et d'ailleurs, à Harlem, aujourd'hui, on voit que le tourisme s'appuie beaucoup sur l'image du quartier, hein, va exploiter le patrimoine politique et social, et notamment l'histoire africaine-américaine, les leaders politiques. On fait des fresques avec Malcolm X, Martin Luther King. On renomme même des coins de rue devant le siège des Black Panthers, etc. Mais en fait, on a quand même mis tout le monde dehors. Donc les touristes viennent, font des visites guidées où ils visitent les hauts lieux de ce patrimoine historique. Mais en fait, c'est une artificialisation totale et un accaparement d'une histoire, alors que les populations de Harlem ont été déplacées et marginalisées.
Oui, le paradoxe, en fait, c'est que cette histoire qui faisait la sève d'Harlem était portée par des personnes qui ont été évacuées et qu'aujourd'hui, on se réclame de cet héritage, mais les personnes qui en ont hérité, en fait, ne sont plus vraiment là pour pouvoir en tirer les bénéfices.
C'est ça. Alors que c'est l'argument marketing et que d'ailleurs, les gens qui continuent d'emménager à Harlem le font parce qu'ils aiment cette identité cosmopolite, aujourd'hui cosmopolite, à l'époque, ça ne l'était pas, mais voilà, il y a cet appétit et ce goût pour cette histoire, quand bien même aujourd'hui, ça n'est plus vraiment le cas.
Alors, un des aspects de la gentrification qui est le plus connu et le plus identifié, c'est la transformation des commerces. À Harlem, ça a été le cas, évidemment, ça n'a pas fait exception. Et vous évoquez dans votre livre la fermeture notamment de commerces de proximité. Et ces commerces jouaient un rôle qui était bien plus important que celui de vendre des produits ou des services. Est-ce que vous pourriez nous exposer la manière dont ils ont été fermés et ce dont ça a privé les habitants de Harlem ?
Ça fait partie des manières dont les politiques publiques ont favorisé et mis en place, hein, la gentrification à Harlem. Ça a été la superposition de différentes dispositions et différentes mesures, notamment de fiscalité, pour favoriser un certain type de commerce. Donc, par exemple, il y a eu la mise en place d'une grande zone franche dans le nord de Manhattan qui permettait d'exonérer d'impôts, de faciliter les emplois, etc., l'embauche. Et puis, ces commerces qui sont arrivés devaient employer de la population locale, de la main-d'œuvre localement, etc. Mais en fait, il n'y avait pas forcément les qualifications dont ils avaient besoin sur place, ou alors en fait c'était des emplois temporaires ou alors précaires, donc en réalité ça ne marchait pas vraiment au bénéfice de la population. Et surtout, ça a attiré des grandes chaînes et l'uniformisation de ces quartiers avec des chaînes nationales et internationales qui ont remplacé ce qu'on appelait les mom and pop shops, qui étaient des petits commerces de proximité, souvent familiaux, qui n'avaient plus les moyens de payer les loyers exorbitants qui sont toujours en vigueur aujourd'hui à Harlem. Et quand ils n'étaient pas propriétaires ou seulement locataires, en fait, les loyers étaient devenus trop élevés, ou parfois les bailleurs juste mettaient fin au bail pour remplacer par d'autres commerces. Donc ces petits commerces locaux qui effectivement jouaient un rôle de proximité, hein, parce que le commerce local, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui connaît vos enfants, qui peut vous faire crédit à la fin du mois s'il y a un problème, qui est un repère qui fait la familiarité du quartier. On se sent habité chez soi parce que on connaît le commerçant, parce que une fois que c'est une grande chaîne uniformisée avec des gens qu'on connaît pas, etc., ça perd de son de son intérêt, enfin de oui de sa de la connexion comme ça qu'on a avec un lieu, un territoire. Et donc la disparition de ces commerces là, dont certains emblématiques, hein, par exemple le Bobby's Happy House.
Oui, c'est un magasin de musique emblématique à la fois culturellement et symboliquement. Donc, est-ce que justement, c'est un cas que je pense beaucoup de personnes aimeraient, enfin, en tout cas, qui serait intéressant d'exposer. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il représente, ce qu'il a représenté et pourquoi finalement ce magasin a été acculé à la disparition?
C'était un magasin de disques tenu par Bobby Robinson, qui était un producteur de musique noire, qui a été le premier Africain-Américain à être le propriétaire d'un magasin sur la 125e rue, qui est l'artère principale de Harlem, là où sont justement tous les commerces les plus emblématiques, le théâtre, l'Apollo Theater, etc. Enfin, donc la 125e rue, c'est le cœur de Harlem. Et donc Bobby Robinson avait ouvert ce magasin en 1946 ou 1947, enfin, il y a quelques années. Donc, il avait déjà 50, 60 ans d'existence dans ce quartier, ce magasin de disques. Et puis, bah, il a été déplacé et fermé par la rénovation, par un projet de rénovation du quartier. Il a été donc comme ça expulsé de son magasin. Et donc, il n'est pas seulement symbolique de l'histoire de Harlem, etc., mais même à l'échelle de l'histoire des Africains-Américains aux États-Unis, parce que Bobby Robinson, c'est le petit-fils d'esclave de Caroline du Nord. Et donc, son parcours à lui, de petit-fils d'esclave à propriétaire d'un magasin de disques sur la 125e rue, à Harlem, à New York, puis expulsé par la gentrification, c'est vraiment symbolique de la trajectoire finalement, des Africains-Américains et du racisme systémique, de la façon dont s'opère le racisme dans les institutions et dans les politiques publiques aux États-Unis.
Vous évoquez aussi, à plusieurs reprises, vous avez parlé de la manière dont les loyers en fait, sont devenus impossibles à assumer pour les populations de Harlem. New York est connue pour être une ville très chère, dont le coût a vraiment augmenté de manière exponentielle ces dernières années. Est-ce que vous pourriez expliquer les mécanismes qui font que les loyers ont augmenté à ce point et aussi expliquer la manière dont l'impôt foncier est indexé, parce que c'est vraiment spécifique aux États-Unis?
Alors, sur l'augmentation des loyers, il y a une crise du logement général à New York. Hein. Il y a trop peu de logements pour beaucoup de demandes, et donc les lois du marché dans cette société de ce modèle capitaliste font que les loyers augmentent soutenus par des politiques publiques favorables aux propriétaires. Par exemple, dans les années 70, lorsque Harlem avait été désinvesti et était dans un état de délabrement avancé, il y avait beaucoup soit de terrains vacants ou d'immeubles abandonnés. Et une loi de New York fait que la municipalité pouvait préempter et saisir ces terrains et ces bâtiments quand les propriétaires cessaient de payer les impôts locaux. Ce qu'ils ont beaucoup fait, puisque ça n'était plus rentable pour eux, donc ils avaient cessé de payer les impôts. Donc la mairie, à ce moment-là, a récupéré beaucoup de propriétés. Et au lieu de les redévelopper elle-même, la mairie a revendu, par exemple pour un dollar symbolique, des terrains à des propriétaires ou des développeurs qui devaient s'engager, qui pouvaient construire un immeuble avec, 50 logements ou 60 logements, mais qui devaient s'engager à en réserver 20% pour des loyers abordables. Donc c'était un peu cadeau pour eux, parce qu'ils avaient, pour un dollar, ils construisaient un immeuble, ils avaient des loyers qui allaient rentrer, et il y avait une proportion finalement très faible de logements qui étaient censés être à loyer abordable. Sachant que ces loyers abordables, ce n'était pas abordable pour les gens de Harlem en fait, parce que le mode de calcul de ce loyer abordable par rapport au revenu moyen des gens, il est calculé pas à l'échelle du quartier, là où il y avait beaucoup de pauvres et où il y avait, la plupart des le revenu médian, il était sous 20 000 dollars à l'époque où je regardais ces chiffres. Et en fait, le revenu médian, il était calculé à l'échelle de la région de la ville de New York. Donc avec toutes les banlieues, avec la ville, avec des revenus beaucoup plus élevés. Donc le revenu médian, lui, il était à plutôt 45 000 dollars, 50 000 dollars, non pas à 20 000 dollars. Donc il y avait toute une marge de gens qui rentraient dans la catégorie d'accès à ces logements-là, qui n'étaient pas des gens de Harlem. Donc c'était abordable seulement pour 20 ans. Donc 20 ans, voilà, j'ai fait ce livre, les gens qui ont accédé à ces logements à l'époque, maintenant, les loyers peuvent être déplafonnés. Donc tous ces mécanismes font que tous les loyers ont très très rapidement augmenté, parce qu'un cycle de 20 ans sur un parc de logements, c'est très très rapide en fait. Et sur la question de la fiscalité, c'est important dans la gentrification, parce que les impôts sont calculés, l'équivalent de la taxe foncière est calculé sur la valeur du logement en fait, de la maison, de la propriété.
Donc, c'est la valeur qu'on attribue au logement selon le marché.
Voilà. Et du coup, des gens qui sont sur des revenus fixes, parce que, par exemple, ils ont hérité de cette maison, eux, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais c'était la maison de leurs grands-parents. Et cette demeure, aujourd'hui, sur le marché, elle vaut 2 millions de dollars, mais eux, ils sont soit retraités, soit avec des revenus faibles, etc. Ils ne peuvent pas payer les impôts liés à ces propriétés-là. Et donc, ils sont obligés de les vendre juste parce qu'ils ne peuvent pas payer la taxe foncière. Donc, ça a un rôle aussi important dans le déplacement d'une frange de la population.
Et pour permettre à de nouveaux arrivants et de nouvelles arrivantes d'emménager, il a fallu faire partir les personnes qui étaient là. Certaines sont parties du fait d'un coût qu'elles ne pouvaient assumer, mais d'autres sont parties du fait d'autres procédés. Et vous décrivez avec minutie les procédés d'intimidation, de harcèlement, d'expulsion qui ont conduit un certain nombre de personnes à partir de Harlem. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a dans la première phase de la gentrification, comme il y a eu des nouveaux logements, il n'y a pas tout de suite eu beaucoup de déplacements. Et on a d'abord rempli les espaces vides. Et puis, à mesure qu'ils se sont remplis, on a commencé à déplacer de manière un petit peu plus frontale les gens qui occupaient ces logements, puisque les propriétaires se disaient, il y a de la demande pour faire payer des loyers beaucoup plus élevés. Donc, voilà, on va virer ces locataires qui ne payent pas assez pour en attirer des nouveaux. Et pour les déplacer, hein, quand ils n'étaient pas forcément autorisés à le faire parce qu'il y avait un bail en cours, pour les faire partir plus vite, ils procédaient à des méthodes de harcèlement ou d'intimidation. Par exemple, des familles immigrées ou des familles qui ne connaissent pas bien leurs droits ou qui ne peuvent pas se défendre, on leur envoie une lettre en leur disant qu'ils doivent partir ils doivent être partis au premier jour du mois suivant. Les gens ne savent pas quels sont leurs recours, ne savent pas quels sont leurs droits, et certains sont juste partis parce qu'ils n'avaient pas le choix ou parce qu'ils n'avaient pas aussi l'énergie de se mobiliser, parce que faire appel à des associations de locataires, mettre en place, il y a eu des initiatives de grève de loyer, des choses comme ça, mais c'est énormément d'énergie pour des gens qui ne sont pas forcément qui ne sont pas outillés ou qui n'ont pas le temps dans leur vie parce qu'ils travaillent beaucoup, etc. Il y avait aussi, surtout, une méthode de désinvestissement, c'est-à-dire que les propriétaires cessaient de faire des réparations et des travaux. Donc, on coupe l'eau chaude, on ne répare pas l'ascenseur. Donc, ça fait que des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite ne peuvent plus monter ou descendre de chez eux. Mais d'ailleurs, ça, c'est des méthodes qu'on voit en France aussi. Hein. Avec aux États-Unis, dans les années 80 à Harlem, c'était vraiment massif, frontal. On laissait les gens... Enfin, je dis dans les années 80, ça a continué encore récemment, puisque dans le New York Times, il y avait encore une histoire, le récit d'une famille hispanique qui, justement, à East Harlem, avait fait les frais de ce traitement-là. Mais ils avaient résisté, ils étaient restés plusieurs hivers dans des conditions déplorables dans cet immeuble, etc. Donc, il y a eu des méthodes très violentes pour déplacer la population.
Oui, donc pour bien qu'on comprenne ce que vous disiez tout à l'heure, les notifications d'expulsion en fait n'avaient pas nécessairement de valeur légale, mais elles étaient suffisamment intimidantes pour que les familles partent d'elles-mêmes, alors qu'en réalité, elles étaient en droit de rester. C'est vraiment de la pression psychologique.
Oui, Les gens qui connaissent pas leurs droits, ou par exemple dans le dans le cas des familles hispaniques où certains sont clandestins ou n'ont pas de papiers et qui ont peur d'être repérés ou d'être arrêtés par la police, etc. Les familles partent, oui.
On l'évoque pas souvent, mais les processus d'expulsion, les processus de gentrification entraînent des séquelles psychologiques pour les personnes qui partent. Il y a une personne dans votre ouvrage qui parle de l'impact émotionnel et sur la santé mentale de la gentrification. Quand on voit par exemple son héritage et son passé effacés, rasés, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous entretenir, parce que c'est aussi un ouvrage dans lequel vous partagez, vous faites part des différents entretiens que vous avez eus avec des personnes qui sont issues de la population de Harlem. Est-ce que parmi les personnes qui se sont confiées à vous, certaines ont évoqué les conséquences psychologiques que ça a pu avoir sur eux ou sur leur famille en termes de stress, d'anxiété, ou tout simplement de sentiment d'illusion de soi et de son héritage ?
Oui, encore. Il y a un entretien que j'ai fait alors récemment, relativement parlant, par rapport aux recherches de ce livre, mais l'année dernière, avec une femme à Harlem qui m'expliquait justement que pendant la phase de gentrification et notamment pendant il y a eu toute une opération urbaine de requalification de la 125e rue où ils ont construit des nouveaux immeubles, ils ont transformé un certain nombre de règles urbaines aussi dans ce moment-là. Et il y avait une procédure de consultation publique avec beaucoup de réunions, une fausse procédure de consultation publique puisque au final, la vie de la population n'a pas été retenue. Mais écoutez, mais enfin, en tout cas, ça a été l'objet de débats pendant de longues années, et d'ailleurs c'est une de mes études de cas dans le livre, mais elle me disait que à l'époque elle faisait un détour pour rentrer chez elle parce qu'elle ne pouvait plus traverser la 125e rue tellement ça la rendait triste d'y passer, qu'elle ne reconnaissait plus les lieux. En fait, c'est les travaux d'une psychiatre qui, Mindy Fully Love, qui a publié un livre qui s'appelle The Root Shock. Et elle dit que la gentrification, ça a un impact psychologique, pas seulement sur les gens qui sont effectivement déplacés, mais aussi pour ceux qui restent et qui sont déplacés de l'intérieur. Parce que même si eux, ils n'ont pas perdu leur logement, ils ont perdu leurs voisins, ils ont perdu les copains d'école, ils ont perdu le commerçant, ils ont perdu la laverie où ils allaient laver leur linge, ils n'ont plus le système de garde qui leur permettait dépanner la sortie de l'école s'il y avait un souci. Ils sont comme ça déracinés de chez eux, tout en ayant encore le logement, mais en voyant que les choses se transforment, que les terrasses et les trottoirs sont occupés par des populations qu'ils ne reconnaissent pas, avec des pratiques sociales qu'ils ne reconnaissent pas, que le café du coin, ils ne peuvent pas se payer le café parce que c'est trop cher, enfin, et que donc il y a tout un choc émotionnel de perte, un sentiment de perte qui est associé à la gentrification.
Oui, parce qu'effectivement, il y a évidemment ce coût strictement matériel qui est lié au fait que l'environnement change, mais en réalité, effectivement, ces commerces de proximité constituaient un réseau d'aide informelle qui permettait aussi aux personnes de faire des économies, et tout à coup, elles ne peuvent non seulement plus se permettre de payer leur loyer, mais elles ne peuvent plus non plus se permettre de continuer à circuler dans cet environnement.
Oui, tout l'environnement est transformé. Si on avait l'habitude de laisser les enfants jouer en bas parce qu'on sait avec quels copains ils sont, qu'il y a une autre maman qui regarde, que on perce cette confiance, cette sécurité, on se sent plus chez soi. Il y a aussi d'autres phénomènes, c'est que les nouveaux arrivants, ils arrivent avec leurs propres revendications, goûts, pratiques, et ils se cachent pas de dire oui, la musique là que vous avez l'habitude de jouer, c'est super, mais moins fort, ou de l'autre côté du parc, jouer au domino sur le trottoir, ça prend trop de place, cachez-vous un petit peu, etc. Et donc en fait, les gens qui avaient leur espace, leur pratique, sont en fait déplacés de l'intérieur, je ne sais pas comment le dire autrement, effectivement, elles sont stigmatisées pour leur pratique aussi, par les nouveaux habitants en partie.
Alors, la gentrification est souvent lue comme un phénomène racial. Et à Harlem, en fait, il y a une dimension supplémentaire, en fait, qui est évidemment la dimension principale de la gentrification de manière générale, qui est la dimension de la classe au sens socio-économique. Est-ce que vous pourriez nous raconter de quelle manière à Harlem ça s'est joué justement à ces deux niveaux différents ?
C'est vrai que Harlem, ça a été un cas intéressant parce que à l'époque où j'ai commencé à travailler dessus, bon, la gentrification, on n'en parlait pas beaucoup en France, mais aux États-Unis, c'était quand même déjà un sujet. Le monde anglo-saxon avait déjà commencé à travailler là-dessus. Et à l'époque, le récit, c'était surtout, c'est des riches qui arrivent pour remplacer des pauvres. Ces riches, en général, sont blancs. Je caricature tout ça, mais c'était vraiment le discours. Ces riches sont blancs et remplacent les noirs. En gros, ou les minorités, les autres minorités raciales, les immigrés, les quartiers immigrés. Donc, il y avait ce discours assez manichéen, mais qui était basé aussi sur des observations tout à fait réelles. Hein. Ça venait pas de nulle part. Mais en fait, à Harlem, il y a eu un réinvestissement dans la première étape de la gentrification par une bourgeoisie noire. Parce qu'après, quand dans les années 60, les classes moyennes noires sont parties en banlieue, après, ils se sont rendus compte que, en fait, le racisme, la ségrégation, la discrimination existaient toujours, mais que finalement, ils avaient recréé des banlieues noires. C'était pas du tout l'idéal de mixité, justement, etc. Et de la vie américaine, le rêve américain leur était toujours pas promis. Donc, ils ont voulu revenir à Harlem, y compris avec un sentiment de responsabilité et d'identité, hein, de connexion, comme ça, d'identification à ce quartier pour lequel ils estimaient avoir une responsabilité. Et donc, certains d'entre eux sont venus, ont réinvesti en disant « on va être des moteurs et des rôles modèles dans ce quartier ». Donc, ils ont racheté les maisons, ont rénové, etc. Ça a été la première phase de la gentrification, une gentrification noire. Sauf qu'en fait, leurs intérêts de classe moyenne et de bourgeoisie noire étaient des intérêts alignés sur les classes moyennes et bourgeoisie blanche. Donc, quand la gentrification a été suffisamment avancée pour que le quartier ne soit plus dissuasif aux blancs, puisque pendant longtemps, le quartier restait un petit peu trop effrayant pour les blancs qui n'allaient pas s'y aventurer tout de suite. Quand le quartier est devenu plus acceptable, déjà un petit peu précocement gentrifié, et que les blancs sont arrivés, d'ailleurs des blancs un peu moins fortunés que les noirs qui sont arrivés dans un premier temps, et bien en fait, ces deux groupes-là, alignés sur leurs intérêts de classe, ont contribué au déplacement des plus pauvres. Et donc, en ce sens, il y a eu une alliance de classe. Mais la question raciale, elle est même encore plus complexe à Harlem parce que, en fait, il y a plusieurs groupes qui coexistaient, plusieurs minorités raciales qui coexistaient. Et depuis le début, j'ai dit avec un peu par abus de langage, les Noirs de Harlem. Mais en fait, les Noirs, c'était plusieurs groupes avec les Africains-Américains, les Afro-Caribéens et plus récemment les Africains immigrés d'Afrique de l'Ouest notamment. Et tous ces groupes-là ne sont pas du tout une catégorie homogène avec des intérêts communs, des revendications communes, etc. Et par exemple, il y avait des préjugés extrêmement forts, des stéréotypes très forts et très racistes en fait, entre les Africains et les Africains-Américains. Les parents des Africains disaient à leurs enfants « ne traînez pas avec les jeunes Africains-Américains, c'est que des gangsters, les armes à feu, la violence, etc. C'est des bandits, des criminels, ils sont mauvais à l'école, etc. » Et les Africains-Américains entendaient des « oui, mais les Africains, ils sentent mauvais, ils descendent des arbres, sont des singes, etc. » Et donc, ces deux groupes avaient des hostilités très forte, au point que j'avais fait un stage dans une association locale, justement un programme culturel et artistique après l'école, enfin une sorte de centre culturel quoi, pour les adolescents du quartier, et ils avaient mis en place un programme spécial de dialogue entre les jeunes adolescents africains-américains et africains pour justement parler de cette difficulté-là. Donc ça, c'est intra-communauté noire, je mets des guillemets. Mais il y a aussi la communauté hispanique qui est à East Harlem, parce que je ne l'ai pas dit depuis le début, mais Harlem, c'est en fait West Harlem, une partie où il y a Columbia, l'université Columbia, donc avec un quartier beaucoup plus cossu et même pas gentrifié là, un quartier bien bien riche, avec à côté là dans la vallée le quartier noir, et puis à l'est le quartier hispanique. Et la communauté hispanique aussi, elle est divisée entre notamment les portoricains, les dominicains et les mexicains qui sont arrivés plus récemment. Et les portoricains et les mexicains, c'est pareil, ils ont beaucoup de préjugés les uns envers les autres, notamment parce que les portoricains, ayant la nationalité américaine, enfin le passeport américain, puisque Porto Rico est un territoire des États-Unis, ça leur confère l'accès à certains services sociaux, à certains droits, à des logements sociaux, à certains emplois, etc., auxquels n'ont pas accès les Mexicains. Donc, ils voient les Portoricains comme des privilégiés et des parvenus qui, en plus, ont laissé tomber leur culture, oublié leurs racines, qui parlent mal espagnol, qui laissent tomber la religion, qui ne sont pas des bons catholiques, etc. Et les Portoricains voient les Mexicains comme des immigrés qui tirent le marché du travail vers le bas, qui vivent à trop nombreux dans les logements, qui les mettent dehors aussi, etc. Enfin bref. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une superposition et un entremêlement de logiques raciales, sociales, qui sont en fait très, très complexes et qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on n'est pas à l'intersection de toutes ces logiques-là. C'est une réponse un peu longue, pardon.
J'allais vous poser la question sur justement le fait que ce ne soit pas une binarité noir-blanc. Et quand on parle des États-Unis, évidemment, et quand on parle de minorités raciales, on ne peut pas s'empêcher de penser à la question de la police et des rapports entre les citoyens et citoyennes et la police. Harlem est aussi caractérisée par une répression policière extrêmement forte. Est-ce que vous pourriez décrire la manière dont cette répression a évolué, comment elle a été instrumentalisée politiquement et comment elle est reçue par les populations en fonction de leur appartenance raciale ?
Oui. Alors Harlem, et puis je vais dézoomer un petit peu sur New York en fait, hein, parce que New York c'est la ville de Rudy Giuliani, donc le parrain de la tolérance zéro et de tactiques policières extrêmement répressives, qui a été maire de New York de 92 à 2000. Enfin, son mandat commence en 80, il est élu en 92, son mandat commence en 93 à 2000. Jusqu'aux attentats du 11 septembre. Et donc, lui, il s'appuie sur une doctrine qui s'appelle la théorie de la fenêtre cassée. Et cette doctrine, elle veut que si dans un quartier, on laisse une petite infraction, un carreau cassé, c'est un signal qu'il y a un laisser-aller et qu'on peut autoriser des crimes et une criminalité plus grave, etc. Et que donc, pour la qualité de vie et pour la lutte contre la criminalité ou la délinquance, il faut s'attaquer aux petits désordres urbains. Donc, ça veut dire qu'on s'attaque plutôt à la question de l'ivresse dans la rue, des sans-abri qui dorment à la vue de tout le monde, aux prostituées sur le trottoir, etc. On ne s'attaque pas à la prostitution et au réseau de proxénétisme et de trafic humain. On s'attaque plutôt à la question des prostituées, des victimes de ces trafics, ou aux usagers de drogue, etc. Bon, bref. Et donc, Rudy Giuliani, il va mettre en place une politique de tolérance zéro. Il va s'appuyer sur le développement d'outils informatiques, numériques. Ils vont commencer à compter et à faire des statistiques sur les crimes et sur la criminalité qui vont leur permettre de justifier le déploiement de la police dans certains quartiers. Et donc, c'est là que j'arrive à Harlem, c'est que, en fait, on observe que ces statistiques, elles ne reflètent pas nécessairement une réalité de la criminalité ou de la dangerosité, mais elles sont construites sur un certain type de... Comment dire ? On observe un certain type de crimes ou de délits qui sont en fait associés à certains types déjà de populations ou de quartiers. Donc on crée l'apparence d'une surdélinquance, mais parce qu'en fait on ne regarde qu'une délinquance associée à ces quartiers-là. Ça permet de justifier d'y déployer plus de police. Comme on y déploie plus de police, eh ben on compte plus de délits et d'infractions, et donc on justifie des statistiques comme ça une présence policière accrue. À savoir que donc les policiers en général, ils viennent pas du quartier. C'est des employés qui sont extérieurs au quartier. Donc, qui sont vraiment des agents qui viennent mettre de l'ordre dans un quartier auquel ils sont étrangers. Et ces interactions-là, elles sont souvent, elles peuvent en tout cas conduire à des violences et à de la brutalité. Et l'histoire des violences policières à Harlem a été, est un sujet de longue date. Un auteur comme James Baldwin en a beaucoup parlé, hein, il a même écrit un de ses célèbres essais sur cette question-là et sur l'interaction avec le policier en tant que vraiment symbole du pouvoir et de la violence d'État.
Et parmi les victimes les plus connues de violences policières, il y en a plusieurs qui sont de Harlem, je pense notamment à Amadou Diallo qui a fait l'objet de plusieurs chansons, quelqu'un qui a été cité dans plusieurs morceaux de rap. Donc il y a vraiment aussi des figures emblématiques, en tout cas qui ont représenté cette violence raciste de la police, qui en ont été victimes à Harlem.
Et qui d'ailleurs symbolise aussi une étape de l'histoire du quartier, puisque Amadou Diallo, c'était un immigrant guinéen. Donc il appartient à cette génération de vagues d'immigration ouest-africaine à Harlem et effectivement c'est un homme qui a été abattu par la police devant la porte de chez lui de 46 balles je crois et il avait son portefeuille juste à la main et donc ça avait évidemment créé c'était en 2001 je pense
1999, je crois.
19. Ouais, je crois. Assez Ousmane Zongo en 2001 et 99. Et donc, il y avait eu des mobilisations locales, évidemment, fortes. Mais c'est vrai qu'à New York, d'une manière générale, qui pourtant n'est pas une des villes où il y a le plus statistiquement et proportionnellement de violences policières, il y a quand même des cas très emblématiques. Je pense aussi, par exemple, à Sean Bell, en 2006, qui est un homme qui a été tué dans une voiture. Pareil, les policiers ont tiré 50 balles sur cette voiture. C'était le matin de son mariage. Il sortait de son enterrement de vie de garçon avec ses trois amis. Il y a également Eric Garner, évidemment, en 2014 à Staten Island. Donc, l'héritage laissé par la police, enfin par Giuliani à la police de New York est très lourd.
Oui, il y a un sociologue que vous citez qui s'appelle Loïc Vacan qui parle de criminalisation de la misère. Et vous dites dans votre ouvrage que la police a deux fonctions différentes en fonction des populations, c'est-à-dire qu'elle inquiète les populations qui sont la cible de discrimination raciste de la police, mais elle rassure les populations justement qui viennent dans ce processus de gentrification et notamment les populations blanches.
Oui, il y a des travaux, alors notamment alors Loïc Vacan, qui parle de cette criminalisation de la misère en montrant comment. Parce qu'évidemment, la question, c'est toujours de dire oui, mais les policiers, la personne, elle avait peut-être fait quelque chose de mal. Oui, mais le policier, il y en a qui font bien leur travail et de parler des individus. Mais parler des individus, c'est évidemment ne pas parler du politique plus généralement. Et donc la question, c'est de comprendre comment on en arrive à ces interactions-là. Et on y arrive parce que il y a des lois qui sont écrites par des catégories dominantes. Hein, les catégories qui accèdent au pouvoir de législatif sont les catégories dominantes de la société, dans lesquelles c'est de notoriété publique que les minorités sont sous-représentées, hein, et que je parle des minorités raciales, sociales, religieuses, etc. Et donc ces lois, elles sont conçues pour protéger les intérêts et représentent une certaine vision du monde de ces catégories dominantes. Donc les policiers qui arrivent ensuite sur le terrain sont juste les... mettent en œuvre ces politiques qui, en fait, ont été conçues pour... Et alors, peut-être pour illustrer ce concept de criminalisation de la misère, je reviens à Eric Garner, qui, à la base, était interpellé parce qu'il vendait des cigarettes à l'unité. Voilà, et je veux dire, il était pauvre, il n'avait pas beaucoup de moyens Et il participait à, comme ça, à une économie informelle, ce qui est assez, assez fréquente. Et dans l'enregistrement, parce que donc son altercation a été filmée, et il avait déjà dit, lui, à 11 reprises, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer, avant d'être étouffé par le policier. Mais avant ça, il s'énerve, il crie contre le policier en disant « Mais j'en ai marre, ça suffit, vous, toutes les semaines, vous venez m'arrêter, sans arrêt, vous venez me harceler, etc. » Il avait déjà plusieurs plaintes auprès de la ville de New York où il se plaignait du traitement dont il faisait l'objet. Et donc, on voit qu'il y avait ce harcèlement policier. Donc, ça, c'est le traitement d'une partie de la population. Et dans d'autres quartiers, on a des enfants qu'on aide à traverser la rue, qui, s'ils sont pris en train de fumer un peu d'herbe, on va leur dire « tu recommences pas, la prochaine fois tu te caches, je vais le dire à tes parents, attention, je te laisse une chance, mais la prochaine fois, voilà. » Et qui ne sont pas immédiatement violentés comme le sont les populations des quartiers comme Harlem.
Alors, vous avez aussi l'occasion de vous rendre à plusieurs réunions publiques et vous décrivez à plusieurs reprises les stratégies de résistance qui ont été adoptées par les membres de la population d'Harlem. Est-ce que, d'une part, vous pourriez nous dire ce que deviennent ceux qui partent, celles et ceux qui partent, et comment celles et ceux qui restent, arrivent à résister et à rester ?
Alors, on ne sait pas très bien où vont ceux qui partent, hein, puisqu'ils sortent justement de la statistique et que les instruments du recensement ont du mal à les suivre. Ce qu'on sait des enquêtes et des entretiens et des enquêtes qualitatives, c'est que, en gros, on n'assiste pas au déplacement et à la recomposition d'un quartier un peu plus loin, mais on a plutôt une dispersion et différentes stratégies selon les raisons pour lesquelles les gens partent. Parce que les gens qui sont déplacés par la gentrification, il y a les déplacements directs dont on a parlé, les gens qui sont mis dehors, où le loyer augmente et ils ne peuvent pas payer, donc ils doivent partir. Mais il y a aussi des déplacements indirects, je suis partie faire mes études où je veux partir de chez mes parents et en fait, je ne peux pas payer un loyer dans le quartier où j'ai grandi, donc je suis obligée de partir plus loin. Donc, il y a différents cas de figure. Pour les étudiants notamment et pour la plus jeune génération, il y en a pas mal qui sont allés faire des études et qui donc, eux, ce n'est pas la question de la pauvreté parce que même ils ont plutôt accédé à encore un statut un peu plus confortable que leurs parents, on va dire. Il y en a beaucoup qui sont allés à Atlanta, qui sont repartis dans le sud des États-Unis, en Géorgie. Il y en a plein qui, en fait, ont fait le trajet inverse de la grande migration du début du XXe siècle. Et là où leurs parents ou grands-parents s'étaient dit « Bon, en fait, on va aller voir ailleurs et l'herbe est plus verte dans les villes industrielles », eux, ils se disent « Oui, toujours autant de discrimination, toujours autant de violence, mais finalement, les opportunités économiques, pas tant que ça. Donc, autant aller vers le sud, où le climat racial, au moins, est assumé, et où, par contre, on va pouvoir faire du business. Donc, à Atlanta, il y a beaucoup, beaucoup ça. Pour les gens qui vont rester dans la région, il y a des gens qui juste partent un peu plus loin et qui vont faire des déplacements pendulaires, hein, qui vont aller au travail juste en faisant des déplacements plus longs, mais parfois très longs. Hein. Ils vont aller en Pennsylvanie ou dans le New Jersey, qui sont les États en face, ou avec le train, mais ça leur fait 2 heures aller, 2 heures retour. Il y en a qui vont aller plus loin dans New York, dans le Bronx, dans Long Island, etc. Donc, mais on a plutôt une dispersion. Et puis, de toute façon, une politique de gentrification dans vraiment beaucoup de quartiers. Le South Bronx, Bedford-Stuyvesant, d'autres quartiers qui étaient connus pour être des quartiers noirs à New York sont aussi en cours de gentrification, même si c'est des stades moins avancés pour l'instant. Donc, il faut aller très loin maintenant.
La dernière question que je voulais vous poser, c'est... vous travaillez depuis un pays qui n'est pas très à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les questions raciales. Comment votre travail a été reçu en France ? Est-ce que vous, après vous travaillez sur les États-Unis, donc vous n'avez pas forcément de point de comparaison, mais est-ce que vous avez le sentiment que finalement le fait de travailler ces questions-là sur les États-Unis, un pays qu'on reconnaît aisément comme étant traversé par le racisme, alors que nous, en France, surtout pas. Comment vous finalement, vous constatez que le fait de parler des États-Unis, ça vous a permis d'évoquer des questions que vous aurez peut-être eu plus de difficultés à évoquer en France ?
Ah bah, on peut très clairement dire race, racisme, racial, noir, en parlant des États-Unis, alors qu'en France, on ne peut pas dire noir, on ne peut pas dire race, on ne peut pas... Voilà. Donc non, j'ai ressenti ça très fort. Voilà. Si j'oublie, reposez-vous la question dans une seconde, je voudrais juste faire le détour de dire qu'il y a à peu près 10 ans, quand une première version de ce manuscrit, enfin en tout cas quand ma thèse, quand j'ai fini ma thèse, j'ai eu mes résultats de recherche, c'était plus important de vraiment insister sur la participation de la bourgeoisie noire dans la gentrification. Parce qu'à l'époque, c'était ce qui manquait dans la compréhension des dynamiques. Et il fallait montrer que vraiment la question de la classe comptait beaucoup et que c'était pas seulement les blancs qui remplaçaient les noirs. 10 ans après, quand on a eu une étape supplémentaire dans la gentrification et où en fait les nombres de noirs ont vraiment mais décliné, chuté de manière spectaculaire et que le nombre de blancs a vraiment doublé, triplé, etc. Il est important aujourd'hui de reparler de cette question raciale et de redire non, il y a aussi quand même cette dimension qu'il ne faut pas oublier et que le rôle de la bourgeoisie noire et de la gentrification noire a été une étape dans un processus finalement d'accaparement historique des espaces noirs et des lieux de pouvoir et des lieux symboliques des Noirs américains, enfin aux États-Unis. Et du coup, sur la question, ça y est, je l'ai oublié, je sais que je voulais y revenir, sur la question raciale en France. En fait, donc il y avait, moi, dans mon travail, cette dimension race-classe. À l'époque, effectivement, c'est un objet lointain, je parle des États-Unis... c'est des travaux universitaires. Bon, j'ai pas bousculé trop de gens. ça restait, ça va. Et puis, comme on parlait des Américains seulement, c'était audible. Et puis, mes sujets de recherche ont évolué au cours de ma carrière et j'ai commencé à travailler sur les violences policières et donc toujours sur les États-Unis. Et là, j'ai commencé à participer beaucoup plus publiquement. Au débat public sur les questions de racisme, et notamment, on a vu se diffuser la notion de racisme systémique et de racisme institutionnel. Bon, là, ça commençait à être un petit peu plus périlleux comme exercice. Hein. On contestait beaucoup les définitions, il fallait vraiment justifier tout ce qu'on disait, etc. Mais je sais que sur la question des violences policières, par exemple, et dans mes interventions médiatiques, je pouvais dire des choses sur les États-Unis que mes collègues ne pouvaient pas dire sur la France. Moi, je ne travaillais pas sur la France, donc je n'avais pas de légitimité à en parler. Je n'avais pas fait de recherche et je n'avais pas de savoir scientifique sur ce qui se passe en France. Mais je sais qu'il se passait des choses qui auraient mérité au moins des regards et des parallèles que mes collègues ne pouvaient pas faire ou qui vivaient une hostilité beaucoup plus forte, une ostracisation, qui ont été bloquées dans leur carrière à l'université, qui n'ont pas pu avoir de bourse. De bourses doctorales, de bourses de recherche, etc. Donc, oui, c'est un certain confort de pouvoir parler de race quand on travaille sur les États-Unis, parce qu'on ne peut pas être aussi, aussi direct quand on travaille sur les cas français.
Pour terminer, donc on n'a pas développé sur les stratégies de résistance des habitants, mais comment vous voyez l'avenir de Harlem sur la prochaine décennie ?
Alors, je réponds toujours aux journalistes que je ne fais pas de prospective.
Mais est-ce que vous avez vu des amorces d'évolution, effectivement, que vous pouvez, dont vous imaginez qu'elles prendront plus de place dans le
temps ? En fait, moi, je conclus ce livre et cette étude en disant que la gentrification de Harlem, elle est terminée, elle est achevée et que ce quartier, il est perdu pour les Noirs américains. Je pense qu'il va continuer à y avoir une sorte de... d'instrumentalisation du patrimoine politique du quartier à des fins touristiques, économiques, et que le quartier va juste continuer de coûter de plus en plus cher, d'être de plus en plus demandé, que tous les programmes de compensation qui ont été mis en place pour dire on va faire un petit programme social ici, on va réserver une formation là. Il y a plein de choses qui devaient être faites, comme des lieux culturels. Tout ça n'est soit pas fait, soit quand c'est fait, participe en fait à la gentrification, parce que du coup, ça rend le quartier encore plus attirant, plus agréable, plus vivant, plus chouette, et donc ça attire encore plus de gens. Donc il y a un peu une espèce là d'impasse, d'ailleurs, que je pense qu'on n'a pas résolu sur la question de la gentrification, hein. C'est que plus on investit dans des quartiers qui ont besoin d'investissement, plus ça attire d'autres personnes, alors que les habitants avaient besoin de ces services et de ces améliorations-là. Mais à mon avis, Harlem, c'est... ne sera plus Harlem.
Et quel regard vous portez sur la manière dont la pop culture traite maintenant Harlem ? Je pense à cette série, je ne sais pas si vous l'avez vue, Amazon, qui s'appelle Harlem, qui est un peu un Sex and the City noir de quatre femmes à Harlem aujourd'hui, qui montre un Harlem assez noir malgré ce qu'il est devenu. Est-ce que vous avez, comment vous analysez ces productions qui interviennent maintenant ?
De toute façon, il reste une population noire, mais c'est une caste particulière. On voit d'ailleurs qu'il y a des lieux, par exemple, justement des bars, on va boire des cocktails. C'est des pratiques qui n'étaient pas le restaurant de soul food, etc. Donc, après, sur la question de la pop culture ou de la culture en général, il y a toujours eu des liens étroits entre la communauté noire et la production culturelle. Ça a été un instrument politique, un instrument d'émancipation, mais qui a été relu de différentes manières. Par exemple, la Blaxploitation, qui a été une façon de s'approprier des moyens de faire du cinéma, d'avoir des films pour les Noirs, qui représentaient les Noirs, etc. Et en fait, aujourd'hui, réinterpréter d'une manière beaucoup plus critique en disant « Non, mais en fait, ça a participé à la fétichisation d'un certain type de personnages et à la caricature qui a collé ensuite à la communauté pendant longtemps, etc. » Donc, ça a toujours été complexe, mais il y a toujours eu des liens. On a vu qu'aussi, il y a des liens étroits, par exemple, entre les leaders du mouvement Black Lives Matter et, d'une manière générale, le mouvement pour les droits des Noirs et pour l'égalité. Il y a des liens avec les artistes, beaucoup. Il y en a plusieurs d'entre eux qui sont d'ailleurs très souvent ou qui vivent à Los Angeles. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'il y ait ces productions-là, mais en fait, elles participent à l'artificialisation quelque part d'images qui ne reflètent pas la réalité du quartier.
Merci beaucoup. Merci. Peut-être qu'on peut vous applaudir. Hein. Eh bien, si vous avez des questions, c'est le moment.
Est-ce qu'il y a une comparaison possible entre ce qui s'est passé à New York et ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans ? Ou ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans ?
Alors, la Nouvelle-Orléans, c'est le prétexte de la catastrophe naturelle qui a effectivement permis de déployer des politiques de gentrification tout à fait. Je me souviens, j'avais travaillé un petit peu à un moment donné sur la Nouvelle-Orléans, mais c'est un cas hyper intéressant parce que... Bon, déjà, on sait que pendant l'ouragan, tout ce qui s'est joué au niveau racial, l'évacuation de certains quartiers, pas d'autres, la non-assistance aux personnes noires dans des quartiers particuliers qui avaient été complètement inondés, etc. Et ces personnes-là qui ont été déplacées ont été obligés de partir dans d'autres villes, parfois dans de la famille, comme ils ont pu, à Baton Rouge, dans d'autres villes en Louisiane, etc. Et n'ont pas vraiment pu revenir parce que quand on a été obligé de trouver un autre travail à 100 km, parce que bah, faut bien vivre. Hein, et ben, aller rénover une maison quand on travaille déjà à temps plein à côté, c'est pas, enfin à côté, loin justement, c'est pas possible, c'est difficile. Que la municipalité avait mis en place des mesures en disant il faut absolument qu'à telle date les maisons aient été nettoyées, rénovées ou reconstruites, sinon on les préempte. Et donc, les gens n'étaient pas en mesure. Donc, ils ont comme ça préempté plein de maisons. Ils ont voulu recréer des quartiers en disant notamment, je me souviens qu'il y avait un projet du quartier des musiciens où ils avaient voulu, a priori, recréer ce quartier pour les anciens habitants et refaire un quartier noir. Sauf que à cause des lois anti-discrimination, ils n'avaient pas le droit d'afficher que c'était un quartier pour les Noirs, donc ils avaient essayé de trouver des contournements. Et puis bon, en fait, ça n'a pas fonctionné. Une fois que les gens étaient partis, ils étaient partis, ils n'avaient pas pu revenir. Pareil, on a reconstruit. Moi, je me souviens, j'étais allée à la Nouvelle-Orléans quelques années après l'ouragan, et j'étais allée dans une réunion publique justement au sujet de la reconstruction d'un quartier qui n'était pas encore reconstruit. Hein. Et il y avait déjà dans cette salle de réunion des gens qui n'étaient pas du tout de la Nouvelle-Orléans, qui n'étaient pas du tout du quartier, qui étaient des blancs investisseurs d'ailleurs, qui étaient en train de venir repérer les affaires qu'ils allaient pouvoir faire et quelles maisons ils allaient pouvoir racheter. Et les maisons shotguns, qui étaient des petites maisons en long, typiques du paysage... là-bas, ils étaient déjà en train de repérer, d'acheter, de faire des affaires, de spéculer. Enfin, c'était évident dans cette réunion que, en quelques années, ça allait être que de nouveau les gens allaient être dépossédés de leur quartier. Après, j'y suis pas retournée depuis longtemps et j'ai pas vraiment fait mes recherches dessus. Donc, je sais qu'il y a quelques collègues américanistes dans la salle. S'il y a quelqu'un qui a travaillé sur la Nouvelle-Orléans, vous n'hésitez pas à donner des éclairages.
Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. Alors j'aurais deux petites questions. La première concerne la première vague de gentrifieurs, notamment la bourgeoisie noire. Est-ce qu'ils sont encore sur place ou est-ce qu'ils ont été eux-mêmes déplacés? Et l'autre, ça va être un peu la continuité. C'est est-ce que le cas en fait d'Harlem, il est assez exceptionnel ou il est plutôt typique, ou il y a tellement de variations dans les quartiers noirs, vieux quartiers noirs de centre-ville, qu'on peut pas vraiment en parler, quoi?
Alors, sur la première question, excellente question, cette première catégorie de gens, en fait, pour certains, comme je le disais au début, pour certains, ils ont participé à la gentrification en y venant, mais même certains d'entre eux, encore plus directement, parce que une partie d'entre eux sont devenus ce qu'on appelle les préservationnistes, c'est-à-dire que eux, ils sont vraiment organisés pour faire des associations de quartier, des associations du bloc, du pâté de maison, etc., pour protéger, pour faire comment on appelle ça, landmark, pour faire protéger quelque part le patrimoine architectural. Pour que ce soit reconnu patrimoine local, etc. Donc, en fait, ils ont vraiment participé à la sanctification de ce lieu et c'était un peu eux les premiers gentrifiants, mais 15-20 ans après, ils étaient déjà aussi des habitants de longue date et donc ils avaient cette légitimité et cette position d'autorité pour dire non, les nouveaux venus, ça s'arrête là, ou alors des nouveaux venus, mais seulement si vous respectez ce patrimoine local, etc. Et donc, c'était finalement vraiment des mécanismes de classe et d'entre-soi. Donc ça, pour une partie d'entre eux. Ensuite, il y a une partie de gens qui ont revendu, qui ont aussi fait des affaires, hein, qui ont revendu leur... ils avaient investi, et puis... ça avait beaucoup augmenté la valeur immobilière. Ils ont revendu, sont partis. Certains d'entre eux n'ont pas tous été déplacés de force. Hein. Certains avaient des projets de vie qui faisaient qu'à l'arrivée d'un enfant, ils voulaient une maison. Ils sont partis en banlieue. Ils ont eu un autre boulot dans une autre ville aux États-Unis, etc. Donc, il y a aussi des gens qui... alors, il y a des gens qui partent à ce moment-là. Quand la famille change, se recompose, qui sont obligés de partir. Et puis, il y en a d'autres qui ont pu se maintenir, mais dont les enfants... ne peuvent pas rester et ne pourront pas rester. Donc ça, c'est pour cette première catégorie, cette première question. Et la deuxième question, est-ce que c'est exceptionnel? Harlem était un quartier exceptionnel, emblématique, etc. Pas exceptionnel parce que c'est ségrégué, parce que ça, il y en a dans toutes les villes américaines, elles se caractérisent par leur ségrégation. Mais en revanche, il y avait un symbole une force symbolique à Harlem qui est quand même assez exceptionnelle. Néanmoins, cette question de l'intervention publique, des mécanismes d'intervention publique, des mécanismes du marché, de la néolibéralisation du contexte et des politiques publiques, etc., tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres endroits. Et de ce point de vue-là, on retrouve des mécanismes. D'ailleurs, les habitants de Harlem qui s'organisaient avec des associations d'autres villes aux États-Unis. Il y avait un réseau qui s'appelait Right to the City Alliance, donc l'alliance d'associations pour le droit à la ville. Et donc, ça représentait les habitants de plein de quartiers aux États-Unis. Donc, ils font l'expérience de mécanismes quand même similaires.
Merci pour ce débat qui était très intéressant. Donc, ma question est la suivante. Vous avez parlé uniquement du maire Giuliani. Donc, mais après Giuliani, est-ce que ça s'est poursuivi, premièrement? Et deuxièmement, j'aimerais savoir, est-ce que, donc là, vous avez pris l'exemple d'Harlem, bien sûr, mais est-ce que la gentrification, c'est forcément lié à la race? Est-ce que ça concerne d'autres villes blanches? Je pense que certainement, parce que, étant donné que c'est un phénomène économique, donc c'est lié au dû argent, donc ça doit toucher tous les États-Unis, évidemment.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, les travaux sur la gentrification ont souvent été illustrés initialement par des quartiers comme Soho, par exemple. En fait, moi, ce que j'essayais de montrer dans ce livre, c'était que, contrairement au récit que la gentrification se produisait sur des initiatives individuelles de jeunes artistes, de populations qui ne trouvaient pas de logement ailleurs et qui allaient réinvestir des lofts, rénover des endroits, que c'était des politiques publiques et qu'il y avait en fait un accompagnement comme ça politique qui soutenait ces processus-là et que ce n'était pas juste les lois du marché ou des acteurs individuels et privés. Donc bien sûr que la gentrification, elle se produit dans d'autres quartiers. C'est devenu de toute façon une politique urbaine à peu près systématique aux États-Unis. Dans beaucoup de lieux, mais non, il n'y a pas toujours une dimension raciale, ou alors elle prend des formes très très nuancées et contrastées, comme à Harlem d'ailleurs, où c'est plus contrasté que ce qu'il n'y paraît. Et après Giuliani, ça a été le maire Michael Bloomberg, qui a fait 3 mandats. Puisqu'il a fait changer la constitution locale pour pouvoir être élu une troisième fois. Donc, il a été maire pendant 12 ans de la ville. Et Michael Bloomberg, c'est un homme d'affaires, milliardaire. C'était l'homme le plus riche de la ville, 8e au classement des États-Unis. Ça vous pose un petit peu le personnage. Et donc, lui, c'était pas Giuliani, c'était pas le même type de politique. Lui, il a au contraire essayé de faire de New York un produit de luxe. Après que Giuliani avait réglé, entre guillemets, la question de la sécurité, Bloomberg, lui, il a dit « Bon, allez, on va faire du marketing, on va attirer des grandes conférences, des grands événements, les touristes mondiaux, on va se positionner sur le marché international et on va gentrifier. » Et il a eu cette intervention singulière, c'est que lui, au lieu de se concentrer uniquement sur Manhattan et sur ce cœur-là de la ville, il a eu une intervention polycentrique et il a vraiment eu une vision à l'échelle de la ville et non pas juste du centre. Et donc, il est intervenu sur le zonage notamment, beaucoup. Ça a été un instrument pour lui de gentrification dans plein de quartiers de New York à la fois.
Bonsoir. J'aimerais savoir si, à votre connaissance, en fait, il y a des systèmes de gentrification heureuses pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des endroits, parce que je pense à la France, il y a certains quartiers en France où la situation actuelle ou même antérieure peut être assez dégradé, y compris pour les habitants qui y vivent. Et on peut comprendre en fait les souhaits des élus locaux en fait de poursuivre une politique de mixité sociale. La question, c'est plutôt à quel moment cette politique vient finalement faire partir les gens en place et vient les exclure de leur propre quartier. Mais est-ce qu'à votre connaissance, il y a des endroits en France ou ailleurs où finalement cette politique de mixité sociale qui a pu réussir et où est-ce que finalement, à un moment, les plus pauvres, de toute façon, sont appelés à partir et les nouveaux arrivants à les remplacer définitivement.
C'est une question un petit peu difficile, mais il y a des gouvernements locaux et des villes qui essayent d'avoir des, de mettre en place des politiques justes. Je pense, par exemple, à une ville comme Ivry-sur-Seine, qui a dans son approche de la politique et de la production de ces espaces, conscience de ces enjeux-là, et qui essaye de compenser les effets de l'embellissement, de l'amélioration et de la rénovation urbaine en, en ayant vraiment une, un regard particulier pour les habitants et leur participation, etc. Après, la question en fait, que vous posez, enfin la manière dont vous, vous la posez, ça me fait penser à quelque chose que j'entendais souvent chez les gens quand je leur disais mais qu'est-ce que vous pensez de la gentrification et de ces transformations? Et ils disaient oui, bah ça fait partie, il y en a plein en fait qui se battaient pas parce que pour eux c'était oui, bon bah de toute façon le changement c'est le changement, ça arrive toujours, on sait bien qu'on peut pas garder pour toujours nos espaces comme ils étaient, etc. Et j'ai pas vraiment de réponse, mais ça m'interroge beaucoup cette question de, parce qu'il s'agit jamais de figer les endroits pour toujours. Et en même temps, effectivement, cette transformation, est-ce qu'il y a un cas de figure où tout le monde est content et où il n'y a personne qui est perdant? Je ne sais pas. En tout cas, il peut y avoir des pratiques qui ne sont pas violentes et qui sont justes pour les gens. Mais je dirais que le problème, il dépasse souvent les acteurs, en fait. C'est vraiment le système du marché, de la spéculation, de la propriété privée qui font que le mécanisme va induire de ces logiques-là, en fait. Il y a des chercheurs comme David Harvey, etc., qui, et puis des militants, qui pensent que la solution, elle est dans, de toute façon, le renoncement à la propriété privée, dans la mise en place de propriétés collectives ou de baux temporaires. Donc, il y a des gens qui cherchent dans cette veine-là, de dire, voilà. Et je sais qu'il y a un quartier au Canada qui, où les habitants ont collectivement racheté leur quartier et où, en fait, ils ont une espèce de gestion participative de l'endroit pour justement arbitrer tous les changements qu'il va y avoir. Quel type tel nouveau commerce ou tel lieu ou, et ils ont à cœur d'équilibrer la transformation et de ne pas dénaturer l'identité locale. Je ne me souviens plus du nom de ce quartier, je crois que c'est à Toronto, mais je ne suis plus très sûre. Et ils ont mis en place effectivement cette espèce d'alternative et d'utopie pour contourner la propriété privée et le marché.
Oui, merci beaucoup pour ce débat très intéressant. Je voudrais rappeler, puisque Charles Rocoquillon a évoqué la tradition des Français qui franchissent la ligne de couleur, je voudrais rappeler le passage de Simone de Beauvoir en 1947. Dans son livre « L'Amérique au jour le jour », elle raconte très bien cela, comment tout le monde l'a découragée d'aller à Harlem et comment elle a marché délibérément vers Harlem. Et il y en a plusieurs pages sur sa découverte et sa balade très sympathique dans Harlem. Voilà. Mais ma question est plutôt justement, puisqu'on parle des propriétés collectives, ma question est plutôt sur des institutions et particulièrement sur l'institution qui s'appelle Columbia University, donc l'Université de Columbia. Et comment vous qualifiez cette extension progressive d'une institution qui a les moyens de son développement immobilier et qui, effectivement, grignote aussi sur Harlem et sur l'ensemble des terrains du nord de Harlem, cette fois-ci? comment ça s'appelle ? Alors, est-ce que c'est de la gentrification ou pas ?
C'est... Du coup, j'ai envie de partir dans plein de directions. ça appelle plusieurs directions. Sur le terme de gentrification, il est vrai qu'entre le début des recherches sur la gentrification et des études sur la gentrification et aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui ont polysémisé, je ne sais pas ce terme, en fait. Et aujourd'hui, gentrification, ça désigne et ça décrit plein de processus très différents dans plein de contextes très différents. Donc, on va dire un peu facilement gentrification dans des cas très variés. Mais le rôle de l'Université de Columbia, qui donc historiquement a été cette espèce de citadelle dans le quartier, à l'abri de la menace du quartier noir, et qui a eu des conflits d'ailleurs avec la population, avec les habitants. Dans les années 60, il y avait eu un projet de construction d'un gymnase de l'université. Et alors, comme l'université est située en hauteur et qu'il y avait un parc qui est en pente, et puis le quartier noir en bas, et ils voulaient construire le gymnase, et ils avaient prévu une entrée pour les étudiants en haut et une entrée pour les gens du quartier en bas. Mais donc, ça faisait vraiment une entrée pour les blancs, une entrée pour les noirs. Et donc, du coup, post-années 60, ça n'a plus du tout passé. Donc, il y a eu un conflit avec la population et les étudiants qui ont occupé l'université, etc., jusqu'à l'intervention de la police, etc., abandon du projet. Donc, il y a une histoire compliquée entre l'institution et son environnement. Et d'ailleurs, pendant que Bloomberg était maire et que le président de l'université, Bollinger, qui était un ami de Bloomberg, a prévu d'étendre le campus de l'université dans le nord du quartier parce qu'il souffrait de l'étroitesse de leurs locaux, en disant on n'a pas assez de salles de cours, on n'a pas assez de logements pour les étudiants, on a besoin de plus d'espace. Pareil, on est en compétition avec Princeton, Harvard, d'autres universités. Donc ils ont dit on va rester dans la continuité de notre campus et juste acheter au fur et à mesure tous les commerces, toutes les résidences. Donc eux aussi, ils ont participé à l'expulsion et à l'éviction parfois pas tout à fait légale ou brutale, les intimidations, le harcèlement. Ils ont laissé le quartier se dégrader au point que y a plein de gens qui partaient parce qu'il n'y avait plus de commerce, donc il fallait bien aller vivre ailleurs. Et puis, ils ont forcé l'État à expulser les derniers commerçants qui ne voulaient pas partir. Et ils ont racheté ce bout de quartier pour y construire le nouveau campus. Qui maintenant est sorti de terre, en tout cas pour une partie, et qui devait pouvoir accueillir des gens locaux, etc., mais qui en fait n'accueille que des étudiants. Et là où c'est une institution qui joue un rôle important, c'est que comme les étudiants, c'est une population qui a un gros turnover, en fait, les loyers peuvent augmenter tous les 6 mois ou tous les ans, puisqu'ils sont remplacés sans arrêt. Donc, ça accélère beaucoup les processus d'augmentation de loyer. Et puis, en termes d'image, de marketing, etc., évidemment, Columbia, c'est aussi une grosse... parce que c'est une institution très fortunée, hein, c'est un des plus gros propriétaires, si ce n'est le plus gros propriétaire immobilier de New York. Ils ont énormément d'argent, etc. Mais ils sont exemptés d'impôts, eux, parce que c'est censé être une institution à but non lucratif. Donc, ils ne payent pas d'impôts. Ce qui fait qu'il y a quelques semaines, il y avait dans la presse des articles sur le fait qu'il y a un projet qui demanderait à l'Université de Columbia de reverser une partie de l'argent que la mairie perd. Parce que plus l'université achète des terrains, plus elle ne paye pas d'impôts sur ces terrains-là, moins la mairie touche des impôts potentiels de ces zones-là. Donc, il y a une espèce de manque à gagner. Et le raisonnement, c'est de dire que, du coup, Columbia University doit de l'argent à l'Université publique de New York, au système CUNY. Et donc, il y a un projet... Alors, je ne sais pas si ça va aboutir, mais donc, il y avait cette revendication que, en fait, Columbia compense ce qu'il doit à l'éducation publique universitaire en payant une sorte d'impôt en reversant une partie de ses revenus. Donc, c'est une institution, effectivement, avec un rôle tout à fait important et compliqué.
Alors bonsoir, merci à vous déjà. Alors moi j'avais plutôt, j'aurais voulu que vous reveniez sur cette partie, vous parliez en fait du phénomène de migration et de non-homogénéité du quartier d'Harlem, où vous parliez justement des conflits qu'il pouvait avoir entre les Noirs américains, les Africains, les Portoricains et les Mexicains, parce que je trouve que finalement c'est quelque chose qui est un peu oublié. Quand on parle des quartiers, et même en France aussi, quand on parle des quartiers, on est toujours, on parle de la migration ou des quartiers populaires. Or, là, la spécificité que vous disiez, c'est que justement, dans ces quartiers-là, il y avait des difficultés parce que sous prétexte que les personnes étaient noires ou latinos, ils pouvaient tous s'entendre. Et comment c'était finalement travaillé par les personnes, les acteurs du quartier?
Alors, il y a eu des tentatives de coalition, puisqu'on aurait pu penser que justement cette menace qui touchait tout le monde, de gentrification, allait permettre de mettre en avant les intérêts communs de protection du quartier. En réalité, ça a été plus fragile, ça a été assez fragile, ces coalitions. Je pense avant même la question raciale, juste parce que la question des égos et de la compétition entre les différents leaders et leurs organismes, ou qui allait pouvoir se dire le porte-parole du mouvement, etc. Enfin, tout le monde essayait un peu de tirer son épingle du jeu. Autour de Columbia, il y a eu, contre l'expansion de Columbia University, il y a eu une coalition assez multiraciale, et ça se traduisait notamment par la présence de leaders des différents groupes, et les réunions publiques, par exemple, contre l'expansion de Columbia, il y avait toujours une interprétation en espagnol. Donc ça, c'était un des signes qui montrait que vraiment il y avait un effort d'inclusion, enfin, et pas seulement un effort d'inclusion, que la constitution de la coalition était multiraciale. Après, il y a eu des compétitions, par exemple, je pense, dans le livre, je parle d'un cas d'un supermarché qui a été implanté à East Harlem et qui, au départ, allait être développé par des institutions noires, par un groupe de leaders et d'institutions noires, mais dans la partie du quartier hispanique. Et en fait... ça a créé des conflits. Il y a eu des revendications pour qu'il y ait un certain nombre d'embauches, etc. Enfin bref, ça a fait énormément de conflits locaux. Je peux penser aussi à l'exemple d'une statue de Duke Ellington qui est située au coin de Central Park, mais pareil dans la partie de East Harlem, et où il y a certains hispaniques qui vont dire. Mais qu'ils aillent la mettre, il n'y a pas de problème, leur statue, mais qu'ils la mettent dans leur quartier noir. Nous aussi, on a des musiciens célèbres. Pourquoi c'est pas un musicien à nous qui est représenté ici avec une statue? Enfin, ça se joue à plein d'endroits. Mais les tentatives de résistance à la gentrification, elles ont pour la plupart échoué, en fait. Elles ont compensé un petit peu, mais... C'est finalement très limité comme effet. Donc c'est en partie à cause de la difficulté d'alliance avec des cultures organisationnelles très différentes aussi. À East Harlem, par exemple, il y avait une association qui s'appelait Movement for Justice in El Barrio, qui était une association de zapatistes mexicains qui avait des procédures de démocratie participative, etc. Enfin, qui faisait pas du tout coopération avec les autres associations du quartier, par exemple. Donc, voilà, c'était un peu complexe.
Merci beaucoup. C'était la dernière question, mais la discussion peut se poursuivre autour de la table puisque le livre de Charlotte Rocoquillon, Harlem, une histoire de la gentrification, est disponible. Elle pourra vous le signer. Vous pourrez lui poser directement vos questions. Merci beaucoup, Charlotte. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous toutes et tous, et je vous invite à rejoindre Charlotte à la table.
Je voudrais juste dire un petit mot sur le fait que, juste dire un petit mot sur le fait que ce livre, il a en grande partie été écrit, enfin il est né avant même d'être un livre, il est né dans une bibliothèque. J'ai beaucoup travaillé en bibliothèque, et donc Voilà, si vous êtes vous-même usager de bibliothèque, demandez-leur d'acheter le livre. C'est important pour moi de rendre à ces établissements publics voilà, ce travail que j'ai fait dans leurs locaux.